49.
Nous sommes le vendredi 4 mars. Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Bonjour Anaïs Sega.
Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'Ukraine et un incendie qui inquiète, celui d'un bâtiment annexe de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, touchée par des tirs cette nuit. Nous faisons le point sur la situation dès le début du journal. Les autres titres, Anaïs.
Emmanuel Macron, candidat au dernier jour possible pour se déclarer. C'est fait par une lettre dans la presse où le président ébauche quelques lignes de programme. Les 20 ans de la loi Kouchner, aujourd'hui consacrant l'information des malades sur leur état de santé. Et puis le début aujourd'hui des Jeux Paralympiques à Pékin. La France vise le top 3 des nations.
Les invités et rendez-vous d'Inter ce matin. 7h45, le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Quel prix les Français sont-ils prêts à payer pour sanctionner la Russie? Et puis à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le coordinateur de la France Insoumise et député du Nord, Adrien Quatennens. J'attends vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. A-t-on franchi un cran de plus dans la terreur cette nuit en Ukraine, après les bombardements de civils, une centrale nucléaire visée par un tir, la plus grande d'Europe, celle de Zaporijjia, un incendie s'est déclenché. Hier, des chars et des soldats russes se trouvaient à quelques kilomètres de là. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Que sait-on ce matin de la situation sur place?
Alors on sait que l'incendie a été maîtrisé, il est désormais éteint et maîtrisé par les pompiers ukrainiens qui ont pu accéder au site nucléaire après en avoir été un temps empêché, c'est ce qu'ils ont affirmé, par les chars russes déployés autour de la centrale et qui seraient donc responsables de ce tir et de cet incendie. Les tirs russes, donc les flammes, avaient touché un bâtiment administratif, des bureaux, mais aucune installation essentielle n'a été touchée, surtout pas les 6 réacteurs, dont 3 au moins n'étaient pas reliés au réseau. Pas de radiation anormale détectée sur le site par l'AIEA, c'est plutôt rassurant à court terme, mais plus largement, cette frappe russe. Cet incident, il met en lumière le risque d'une catastrophe écologique continentale si les frappes russes venaient à toucher l'un des 15 réacteurs que compte l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky déclarait cette nuit que la Russie mène une forme de terrorisme nucléaire en visant volontairement, selon lui, les installations nucléaires ukrainiennes. C'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire qu'un pays qui possède des centrales est le théâtre d'une guerre. La menace est réelle au pays de Tchernobyl, qui plus est. Volodymyr Zelensky le sait. Il appuie sur cette menace dans l'espoir d'obtenir de ses alliés occidentaux qu'une zone d'exclusion aérienne soit mise en place au-dessus de l'Ukraine pour empêcher les survols et les bombardements russes.
Merci Camille Magnard. Le sujet en effet n'est pas pris à la légère. Le président américain Joe Biden demande aux Russes de cesser leurs activités militaires dans la zone. Boris Johnson dénonce, je cite, les actions irresponsables de Vladimir Poutine qui peuvent directement menacer la sécurité de toute l'Europe. Inquiétude jusque sur les marchés asiatiques, les premiers à ouvrir où toutes les places boursières sont à la baisse ce matin. La centrale de Zaporijjia est à une centaine de kilomètres de Kiev qui se prépare à un assaut. Hier, sur le terrain des frappes, dans le nord-est, sur la route de la capitale, on fait 33 morts dans une zone résidentielle de Tchernigiv. Des habitations, 2 écoles touchées. Dans le sud, Mariupol, bientôt sous blocus russe, accuse le maire. Ponts et trains détruits, la population ne peut plus fuir. Et donc maintenant, la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Deuxième semaine d'opération militaire russe. Aucun signe que cette guerre se terminera bientôt, selon le président allemand en Lituanie. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Anaïs.
Vous êtes notre correspondant à Moscou. Vladimir Poutine s'est exprimé hier à la télévision et en effet le président russe ne laisse aucune place à l'apaisement.
Non, Vladimir Poutine n'a rien annoncé de nouveau hier lors du Conseil de défense qu'il tenait, sinon précisément effectivement qu'il ne changeait pas de cap, ni dans ses convictions. Les Russes et les Ukrainiens sont un seul peuple, a-t-il notamment redit, ni dans sa direction. Le chef du Kremlin a affirmé que tout se passait comme il l'avait prévu.
Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану.
Voilà. L'opération militaire spéciale se déroule selon le calendrier, selon le plan. Toutes les tâches assignées sont accomplies avec succès. Autant Vladimir Poutine s'était adressé au monde et particulièrement aux Occidentaux ces derniers temps, autant hier soir il a parlé à sa population, évoquant pour la première fois les pertes de l'armée russe, les indemnisations que toucheront les familles. Même si le mot est interdit ici, c'est bien le président d'une nation en guerre, qui s'est exprimé, Vladimir Poutine qui semble préparer son opinion à un conflit qui dure. On a d'ailleurs vu les premières images de combat à la télévision russe hier soir, la télévision qui expliquait aussi à ses téléspectateurs comment les Ukrainiens dissimulent du matériel militaire dans les zones résidentielles.
Sylvain Tronchet, merci, en direct depuis Moscou. Hier, les pourparlers ont débouché sur de très maigres résultats. Pas de trêve, mais la mise en place de couloirs humanitaires pour permettre d'évacuer les civils. 1 million d'habitants ont fui le pays, mais des centaines de Français restent en encore bloqués en Ukraine. L'ambassade de France ne peut pas les évacuer et recommande à ceux qui peuvent de prendre la route pour rejoindre un pays voisin. C'est ce que s'est résolu à faire Cyril avec sa compagne en voiture depuis hier après-midi. 250 km parcourus en 7 heures, une pause dans un hôtel dans l'Ouest et encore autant de routes avant de rejoindre la Moldavie ou la Pologne. Long trajet pendant lequel Cyril a réalisé encore un peu plus le drame de la guerre qu'il cherche à fuir.
On a passé plusieurs checkpoints dans la douleur, dans le sens où on n'a vu que des horreurs sur le chemin. C'était une angoisse permanente avec des hommes qui ont la main sur la gâchette, qui sont prêts à tirer. Et, ce qu'on voit, c'est pas beau à voir. C'est-à-dire que vous allez voir un éclat d'obus, vous allez voir un restant de quelque chose. Et puis sur une autre image, vous allez voir carrément un site qui a été détruit. On a assisté à trop de choses en fait. Enfin, je veux dire, tout votre équilibre mental change. Aujourd'hui, on a été submergé par des angoisses. Et je suis pas le seul dans ce cas. Ça va faire des dégâts sur beaucoup de gens qui étaient, comme vous et moi, normaux à la base. Et notre quotidien aujourd'hui, c'est de parler de rationnement d'essence, de couvre-feu, de faire vite pour rejoindre une vie à l'autre. Comment voulez-vous qu'en 2022, on pense à des choses comme ça ?
Cyril Baraton, un Français qui cherche à quitter l'Ukraine, joint par Ajra Mohammad. Dans la nuit, le secrétaire d'État américain est arrivé à Bruxelles. Réunion aujourd'hui avec des responsables de l'OTAN et de l'Union européenne. Et puis, le prince héritier d'Arabie Saoudite a lui proposé sa médiation pour mettre fin à la guerre.
On ne doutait pas vraiment de la décision d'Emmanuel Macron.
On ne savait juste pas ni où, ni quand et comment le président de la République allait se déclarer candidat à sa réélection. Il a donc choisi un communiqué publié dans la presse quotidienne régionale à moins de 24 heures de la date butoir, ce soir 18h. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Service politique de France Inter. 3 pages de texte pour y esquisser un début de projet.
Oui, il admet ne pas avoir tout réussi. Il reste donc des choses à faire avec 3 domaines prioritaires. Éducation, santé, travail. Il veut des enseignants, je cite, plus libres, plus respecté et mieux rémunéré. Il veut faire reculer les déserts médicaux, permettre à chacun de vivre le grand âge à domicile tant qu'il le peut. C'est la grande loi dépendance qu'il n'a pas faite. Il nous faudra travailler plus, comprenez notamment la réforme des retraites, poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production. Poursuivre, continuer, ces verbes reviennent 5 fois, continuer d'investir dans notre innovation pour devenir, je cite, une grande nation écologique, pas un mot sur les institutions. Emmanuel Macron promettait en 2016 la révolution, il vante aujourd'hui la protection.
Et maintenant qu'il est candidat Maxence, Emmanuel Macron va-t-il se lancer dans l'arène politique ?
Il désigne en tout cas ses adversaires. L'enjeu est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance. Sans surprise, Éric Zemmour et Marine Le Pen en tête. Nous ne répondrons pas à ces défis en choisissant le repli ou en cultivant la nostalgie. Il va sur leur terrain, une page plus loin, en promettant de défendre un art de vivre millénaire, une histoire, une langue, une culture que lorsqu'on est français, on se doit de connaître, d'aimer, de partager. Emmanuel Macron pose le cadre. Il aura peu de temps pour rentrer dans les détails. Je ne pourrai pas mener campagne comme je l'aurais souhaité. Au mieux, 1 ou 2 meetings, de rares émissions, quelques déplacements. Mais ça n'a pas de quoi inquiéter l'Élysée, puisque le costume présidentiel, celui de chef des armées, est en soi un puissant outil de campagne.
Et moins d'une demi-heure après la diffusion de cette lettre d'Emmanuel Macron, merci Maxence, l'immédiate réaction du camp Pécresse. La candidate de droite, Anne Souhaitemont, n'attendait que cela pour lancer les hostilités.
Ça y est, tout le monde est sur le ring. La campagne peut enfin commencer. Dans l'entourage de Valérie Pécresse, on attendait ce moment depuis longtemps, le moment du bilan d'un quinquennat pour presque rien, à coutume de dire la candidate qui a très vite répliqué hier soir depuis son QG de campagne.
Augmentation des violences, immigration incontrôlée, école et santé fragilisées, désindustrialisation, pouvoir d'achat en berne, explosion de la dette et des déficits. Emmanuel Macron doit rendre des comptes.
Confronter Emmanuel Macron à son bilan, évidemment qu'on doit le faire. Mais peut-on attaquer un général en pleine guerre, s'inquiètent certains, quand d'autres, au sein de la même équipe, estiment que la priorité doit être le match avec Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ne nous trompons pas de campagne. Avant le second tour, il y a le premier, lâche un proche. Maintenant, il faut que Valérie prenne son risque, plaide un stratège, qui se félicite que la candidate ait accepté un débat avec Éric Zemmour jeudi prochain, puis avec Marine Le Pen. Objectif, surprendre. Après un début de campagne très techno, démasquer une extrême droite disqualifiée par sa poutinophilie pour remonter dans les sondages et espérer passer la barre du premier tour. Peut-être déjà trop tard, regrette un député.
Dissension en interne aussi chez les Verts. Sandrine Rousseau exclue hier soir de la campagne de Yannick Jadot pour les propos qui lui sont attribués dans la presse, critiquant la stratégie politique du candidat écologiste. Cela nous semble tellement naturel aujourd'hui, savoir quel est notre réel état de santé, apprendre des médecins de quoi l'on souffre. Ça l'était beaucoup moins il y a 20 ans lorsque le 4 mars 2002, la loi Kouchner a été adoptée, consacrant le droit des malades à être informés et à avoir accès à leur dossier médical. Depuis 20 ans, le consentement libre et éclairé des patients doit être recueilli par les médecins. Ce texte a révolutionné les rapports soignants-soignés. Catherine Simonin, actuellement à la Ligue contre le cancer, en a fait l'expérience. 7 ans avant la loi, on lui avait diagnostiqué un cancer digestif sans qu'elle soit au courant.
On m'a convoquée pour des biopsies, puis j'ai été rappelée pour dire il faut un complément de biopsie. Mais je me suis bien rendu compte que l'anesthésie n'était pas la même et que, évidemment, les séquelles non plus. Et donc, je venais de me faire opérer d'un cancer sans que ça m'ait été annoncé. J'étais très jeune, on n'a pas pris soin de me faire une annonce comme elle aurait dû être faite. S'il y avait eu la loi Kouchner en 95, déjà avant l'intervention, évidemment, on m'aurait annoncé qu'il allait y avoir une intervention. Et j'aurais pu m'y préparer mieux. Parce que là, d'abord, on se pose 1000 questions. Et ensuite, c'est se dire, mais pourquoi je n'ai pas pu participer? Et en plus, à l'époque, je travaillais et je faisais ça sur mes jours de congé, ce qui était excessivement dangereux sans m'arrêter pour maladie.
Le témoignage de Catherine Simone avec Claire chez Caglini. Aujourd'hui encore, 12% des médecins ne donnent pas leur dossier médical à leurs patients. Le Conseil de l'Ordre appelle à une meilleure diffusion de cette loi qui permet aussi la présence de représentants des patients dans les conseils de surveillance des établissements de soins. Retour au nid d'oiseaux de Pékin. Ouverture tout à l'heure à 13h des Jeux Paralympiques sans la Russie et la Biélorussie finalement. Exclus. 18 athlètes français sont en Chine. Certains d'entre eux défileront derrière le porte-drapeau Benjamin Davier tout à l'heure. L'équipe de France Guillaume Batin espère ramener au moins autant de médailles qu'il y a 4 ans en Corée.
8 médailles d'or, 4 à Sochi en 2014, 4 à Pyeongchang en 2018. La skieuse alpin Marie Bochet, la locomotive de l'équipe de France paralympique, à l'image de Martin Fourcade ou Quentin Fillon-Maillet chez les Olympiques. Et sa soif de victoire est encore bien présente à 28 ans.
Il est clair que quand on a goûté à la saveur de l'or, c'est compliqué de ne pas avoir cet objectif-là et on a toujours envie que ça continue et que ce soit pareil et qu'on aille toujours chercher ce métal-là parce que c'est trop bon, quoi.
Il y a 4 ans, la France avait ramené 20 médailles, dont 7 en or de Corée du Sud. Elle était à la 4e place du tableau des nations. Jean Minier est le chef de la délégation française à Pékin.
Le manque de visibilité sur les 2 dernières années, on a eu très peu de confrontations. C'est vraiment la première fois qu'il y a, à part les Russes et les Biélorusses, l'ensemble de la concurrence sur un tel niveau de confrontation. Et donc, c'est très complexe pour nous d'arriver à situer notre potentiel de nombre de médailles et de nombre de titres. Mais nous ambitionnons d'être dans les 3 premières nations à la fin de ces Jeux paralympiques.
Ces Jeux paralympiques promettaient de grosses bagarres entre Russes et Français, notamment en biathlon et ski de fond. L'absence des premiers devrait permettre aux tricolores de gagner un peu plus de médailles que prévu à Pékin.
Et les espoirs de médailles, les impacts aussi de la guerre en Ukraine, ce qu'il faut savoir sur ces Jeux paralympiques, c'est aussi un article à lire sur franceinter.fr.
Merci Anaïs Feuga pour ce journal. Dans 3 minutes, le zoom, l'invasion russe sévèrement critiquée en Israël.